Canal Plus.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya réaffirme que son pays n'a pas besoin de la CEDEAO pour régler ses problèmes. En RDC, la Cour constitutionnelle se dit incompétente pour juger l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Première tournée africaine pour le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, attendu demain au Kenya. Sommaire virtuel entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping pour tenter de calmer les tensions entre les deux pays. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Et d'abord, le journal. La Guinée n'a pas besoin de la CEDEAO pour régler ses problèmes car le pays ne traverse pas une crise politique. C'est l'avis du colonel Mamadi Doumbouya qui a pris le pouvoir en septembre. Nous faisons le point avec Abdourahman Dia.
Dans son premier entretien prolongé accordé à la télévision nationale, le colonel Doumbouya exprime son opposition à la récente nomination d'un envoyé spécial par l'organisation régionale ainsi qu'à un délai imparti par la CEDEAO. « Je pense qu'on est assez intelligent pour régler nos problèmes ensemble, entre nous. Ce n'est pas un pays qui est en crise, c'est un pays qui est en phase de prendre son destin en main », a-t-il dit, précisant que la Guinée veut régler ses problèmes en interne. L'homme fort de Conakry a demandé d'éviter la comparaison entre le Mali et la Guinée. « Il n'y a pas de crise en Guinée. Vouloir toujours donner les mêmes remèdes à deux maladies ou trois maladies différentes, je pense que ce n'est pas adapté ». Le colonel Doumbouya s'est gardé de se prononcer sur la durée de la période de transition avant le retour des civils au pouvoir. La durée de la transition sera décidée par le Conseil national de transition, censé tenir lieu d'organe législatif et en cours de constitution, a-t-il dit. Le colonel Doumbouya s'est aussi défendu de mener une purge dans les services de l'État.
Au Burkina Faso, le bilan s'est alourdi suite à l'attaque hier de la gendarmerie d'Inata dans le nord. 32 personnes, dont 28 soldats et 4 civils, ont été tuées, selon un porte-parole du gouvernement. L'attaque, qui s'est produite dans la province du Soum, dans la région du Sahel, a été menée par un important nombre d'individus armés circulant à bord de plusieurs pick-up et motocyclettes, selon le ministre de la Sécurité, Maxime Koné. C'est l'une des plus meurtrières attaques contre les forces de sécurité burkinabées depuis 6 ans. Nous reviendrons sur cette attaque en seconde partie de ce journal. Au Mali, 7 soldats ont été tués hier dans une attaque attribuée aux djihadistes au nord-est de Bamako, près de la frontière mauritanienne. L'armée malienne a précisé que l'attaque du poste de Guiré dans la région de Nara avait également fait 12 blessés et que 6 assaillants ont été abattus. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a estimé aujourd'hui n'avoir pas compétence à juger l'ex-premier ministre Augustin Matata Ponyo, en laissant le soin à d'autres juges. L'ancien chef du gouvernement est poursuivi pour détournement de fonds publics. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Normalement, cette juridiction est le juge pénal du président de la République et du premier ministre en fonction. La haute cour congolaise a donc pris la loi au mot. Le privilège de juridiction cesse avec la fonction. Monsieur Matata doit être poursuivi devant son juge naturel, a déclaré le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba, lors d'une audience publique, sans préciser devant quel juge l'ancien premier ministre devait être renvoyé. Les avocats de Monsieur Matata Ponyo estiment que leur client doit être renvoyé devant la Cour de cassation, compétente pour juger notamment les parlementaires. Dans cette éventualité, l'ancien chef du gouvernement est protégé par son immunité parlementaire et ne pourra être poursuivi qu'après autorisation du Sénat. Monsieur Matata Ponyo est poursuivi aux côtés de Patrice Kitebi, ancien ministre délégué aux finances au moment des faits, et Grobler Christo, gérant d'une société sud-africaine. Tous les trois sont soupçonnés d'avoir détourné Alors que M. Matata Ponyo était Premier ministre, plus de 200 millions de dollars destinés au parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, à 250 km au sud de Kinshasa.
RDC toujours, nouveau bilan suite aux attaques d'au moins 3 villages attribués aux rebelles des ADF. 38 personnes ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi à Beni, selon le baromètre sécuritaire du Kivu. La Croix-Rouge locale a confirmé ce bilan. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, au moins 17 civils ont été tués lundi par des miliciens en Ituri. Les miliciens du groupe armé Force Patriotique et Intégrationniste du Congo ont attaqué le village de Chabusiku, ayant tué 17 civils, dont certains ont été retrouvés calcinés dans leur maison, d'après David Baindunka Bamuinga, chef du secteur rural de Baema Irumu en Ituri. Au Soudan, au moins 8 personnes, dont 3 adolescents, ont été tuées par les forces de sécurité dans des manifestations samedi, a indiqué lundi un syndicat de médecins pro-démocratie. Le syndicat a également dit avoir recensé depuis samedi plus de 200 blessés, dont 100 par balle, précisant que les autres avaient reçu des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes. La police a nié ces violences, disant s'être limitée à un usage minimal de la force et n'avoir pas tiré à balles réelles. En Afrique du Sud, la Commission des droits de l'homme a ouvert une enquête sur les émeutes sans précédent qui ont secoué le pays en juillet, faisant plus de 250 morts. Les auditions se sont ouvertes près de Durban, dans le KwaZulu-Natal, province où les violences ont commencé suite à l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma, très populaire dans la région.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken part pour le Kenya, première étape d'une tournée en Afrique qui le mènera au Nigeria et au Sénégal. Eric Manirakiza.
Monsieur Blinken va rencontrer à Nairobi le président Uhuru Kenyatta qui vient de rentrer d'Éthiopie. Ils vont discuter de la coopération pour mettre fin à la pandémie de coronavirus et de la situation politique et sécuritaire de l'Afrique de l'Est. Selon le professeur Chacha Nyanguti Chacha, spécialiste de la diplomatie et des relations internationales à l'université de Nairobi, la visite de M. Blinken montre l'urgence d'instaurer la stabilité dans la région. L'Amérique reconnaît le rôle que le Kenya devra continuer à jouer pour soutenir les initiatives de la communauté internationale entreprises par l'IGAD et par la Commission de l'Union africaine et le monde en général, dit-il. Le secrétaire d'État se rendra ensuite à Abuja pour s'entretenir avec le président Muhammadu Buhari de sécurité sanitaire, l'accès à l'énergie et la revitalisation de la démocratie. Enfin, Anthony Blinken ira au Sénégal pour rencontrer le président Macky Sall pour réaffirmer le partenariat entre Washington et Dakar.
Ici aux États-Unis, l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, s'est rendu à la police ce matin à Washington après avoir été inculpé d'entrave aux prérogatives d'enquête du Congrès sur l'attaque contre le Capitole le 6 janvier. Monsieur Bannon est poursuivi pour avoir refusé de témoigner et de transmettre des documents à la commission spéciale de la Chambre des représentants qui enquête sur le rôle de l'ex-président dans l'assaut du Congrès par ses partisans. Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping vont tenir un sommet virtuel à 19h45, heure de Washington, pour tenter d'atténuer les tensions entre les États-Unis et la Chine à propos de Taïwan et d'autres sujets sensibles. Nathalie Barge.
Ce troisième entretien virtuel entre Joe Biden et Xi Jinping depuis janvier intervient alors que les contentieux s'accumulent entre Washington et Pékin sur Taïwan, les échanges commerciaux et les droits humains. Selon un haut responsable de la Maison-Blanche, il s'agit d'assurer que la compétition ne conduise pas au conflit et d'éviter tout malentendu. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a dit que Pékin souhaite travailler avec Washington pour remettre les relations sino-américaines dans le droit chemin d'un développement sain et stable. Le sort de Taïwan a fait l'objet d'un vif échange samedi entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et son homologue chinois Wang Yi. M. Blinken a exprimé sa préoccupation concernant la pression militaire, diplomatique et économique de la Chine contre Taïwan, tandis que M. Wang a mis en garde les États-Unis contre toute action pouvant être interprétée comme un soutien à l'indépendance de Taïwan. Washington souligne toutefois que les deux grandes puissances pourraient coopérer dans certains domaines comme la lutte contre le changement climatique.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Accra a reçu une subvention de 40 millions de dollars du Fonds africain de développement pour capitaliser davantage la Banque de développement du Ghana. Cette institution financière a été nouvellement créée pour fournir des financements aux micro, petites et moyennes entreprises dans plusieurs domaines, y compris l'agro-industrie, la fabrication et les technologies de l'information et de la communication. Le Maroc a adopté son budget 2022 axé sur des mesures de relance économique et marqué par des dépenses militaires en forte hausse. Le Royaume table sur un investissement public record de 23 milliards d'euros et se base sur trois priorités, l'emploi, l'éducation et la santé. Rabat prévoit la création de 250 000 emplois dans les chantiers de travaux publics sur 2 ans en faveur des jeunes ayant perdu leur travail à cause de la crise. Quelques 50 000 autres jeunes devraient bénéficier d'aides pour la création d'entreprises. Le budget de la défense dépasse pour la première fois les 5 milliards d'euros. Pour terminer, la Banque africaine de développement appelle les pays développés à honorer leurs engagements financiers envers les pays en développement qui luttent contre les effets du changement climatique et l'impact du COVID-19. Nous ne cherchons que 485 milliards de dollars sur les 3 prochaines années pour sortir de la crise actuelle. Dans le même temps, les pays développés disposent de milliers de milliards de dollars, a déclaré le président de la BAD, Akinwumi Adesina, lors du Forum de Paris sur la paix.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Deux nouveaux qualifiés pour les barrages du Mondial à Qatar 2022, zone Afrique, après le Sénégal, le Maroc, le Mali et l'Égypte. La République démocratique du Congo et le Ghana ont composté hier leur billet pour les barrages. Les Léopards ont doublé les écuries du Bénin dans le sprint final du groupe J à Kinshasa en s'imposant 2-0, dont un pénalty contesté par les Béninois, mais transformé par Dieu merci Mboukani. D'où la déception du sélectionneur des écureuils, Michel Dussuyer.
Il y a un fait Dieu qui penche en faveur des Congolais. En personne, je pense, même dans le stade, n'a compris comment l'arbitre a pu siffler un penalty. Forcément, les données ont changé. RDC a le but d'avance qu'il voulait chercher. Donc, malgré tout, l'équipe a su réagir, faire front, poser des problèmes à cette équipe de RDC. Il nous a manqué un poil de réussite pour recoller au score et mettre encore plus de doutes sur cette équipe.
Michel Dussuyer, sélectionneur du Bénin. De son côté, le Ghana s'en est remis à son capitaine André Ayou pour coiffer l'Afrique du Sud dans la finale du groupe G. Score final 1-0, but marqué là aussi sur penalty. Les Black Stars s'adjugent donc la première place devant les Bafana Bafana. Grâce à la différence de but, il reste 4 tickets à prendre pour les barrages prévus en mars 2022. Ils seront tous attribués demain mardi. 4 affiches aux allures de finale avec le très attendu Cameroun-Côte d'Ivoire dans la poule D. Les deux équipes sont au coude à coude, 13 points pour les Ivoiriens et 12 pour les Camerounais. Les Lions indomptables ont besoin d'une victoire pour finir en tête. Par contre, un match nul arrangeait les éléphants. Le Burkina Faso, deuxième du groupe A, après avoir laissé 2 points face au Niger, a aussi besoin d'une victoire à Blida pour passer devant l'Algérie qui n'a besoin que d'un match nul pour voir les barrages. La finale du groupe C se jouera entre le Nigeria et le Cap-Vert, vainqueur de la Centrafrique. Avantage tout de même pour les Super Eagles qui ont 2 points d'avance sur les Requins Bleus. Et puis ce sera un duel à distance dans la poule B entre la Tunisie qui reçoit la Zambie et la Guinée équatoriale en déplacement en Mauritanie. Les Aigles de Carthage et le Nsalang National partagent la première place du groupe avec 10 points. NBA, Golden State a échoué à remporter un 8e succès d'affilée à Charlotte, vainqueur 106-102. Les Phoenix Suns ont balayé les Rockets 115-89. Denver a écrasé Portland 124-95. Le MVP en titre, Nikola Jokic, totalise 28 points, 9 passes décisives et 9 rebonds. Les Lakers se sont repris face à San Antonio 114-106. Atlanta a pris sa revanche sur Milwaukee 120-100. Brooklyn a marché sur Oklahoma City 120-87. Et enfin, Chicago a battu les Los Angeles Clippers 190.
Merci, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Burkina Faso, moins 19 gendarmes et un civil ont été tués hier lors d'une attaque de djihadistes présumés contre le détachement de gendarmerie d'Inata dans le nord. Selon une source sécuritaire, l'attaque a été menée par un important nombre d'individus armés circulant à bord de plusieurs pick-up et motocyclettes. Vendredi, 7 policiers ont été tués et 5 blessés lors d'une attaque à Alcoma dans le nord-est. La semaine dernière, l'opposition a exigé des mesures urgente face à la recrudescence des attaques, menaçant de descendre dans la rue pour réclamer la démission du chef de l'État, Roch Kabore. Pour une analyse, Yakuba Ouedraogo, adjoint à Ouagadougou, l'analyste Lionel Bilgo.
Ça nous inspire une montée en puissance des terroristes. Ça nous inspire également une crise très profonde sur notre territoire. On sait aujourd'hui que cette guerre va être longue, mais là, on commence à se rendre compte aussi des séquelles qu'à la fin de cette guerre, nous aurons dans la mémoire collective.
Le mode opératoire, il est pratiquement toujours le même. Des assaillants qui viennent en masse sur des pick-up et des motos. Pourquoi jusque-là, les forces de sécurité n'arrivent pas à contrôler cela?
La montée en puissance en termes d'équipement de ces forces terroristes-là nous inquiète sur la fourniture en armement, mais aussi en moyens motorisés de ces terroristes qui utilisent très même apparemment des drones, etc. Donc ils sont super équipés. Ils ont une puissance de feu égale, si ce n'est supérieure, à celle de nos armées. Et puis leur nombre est très inquiétant. Ça veut dire qu'ils ont une facilité de recrutement, d'endoctrinement très élevée par rapport au recrutement que nos forces de l'ordre font.
Récemment, le gouvernement avait dit avoir quand même maintenant des moyens aériens assez conséquents pour parer à des attaques pareilles. Pourquoi cette fois-ci ça a encore flanché?
Oui, on a l'impression que entre le discours en termes d'équipement et de montée en puissance du gouvernement et la mise en phase opérationnelle de ces nouveaux dispositifs-là, il y a un gap. L'autre question qu'on peut se poser aussi, c'est l'éloignement des bases militaires. Vous savez qu'aujourd'hui, les terroristes n'attaquent pas seulement les villages, mais s'attaquent frontalement aux détachements militaires. C'est dire le courage qu'ils ont aujourd'hui et cette manière désinvolte, en tout cas, de semer le chaos et le trouble dans notre pays.
La population burkinabé a réclamé qu'il y ait des ministres partent, ça a été le cas. Des chefs d'état-major sont tombés, mais les attaques persistent. Finalement, est-ce un problème de compétence?
Moi, je pense qu'il y a un problème de manque de cohésion à l'intérieur même de nos forces armées. Il y a aussi peut-être un problème de sabotage de certains individus camouflés à l'intérieur. Vous savez que notre société est fractionnée, est totalement divisée par une crise systémique depuis le départ du président Blaise Compaoré, mais aussi depuis le coup d'état de 87, etc. Ce qui fait que l'armée n'est pas aussi mise à l'écart par rapport à cette fracture-là. À l'intérieur de l'armée, certainement, qu'il y a des blocs qui se font face, qui n'arrivent pas à travailler ensemble, qui n'arrivent pas à structurer leurs actions. Sinon, comment comprendre qu'un détachement militaire puisse appeler au secours en termes de vivres, de nourriture et d'eau, soit asséché complètement à ce point-là? Donc c'est inadmissible et je pense que les terroristes ne sont pas seulement dans le Sahel ou dans l'Est, ils sont aussi dans nos institutions. C'est une question de casting, mais pas seulement. Il y a aussi à résoudre les problèmes de coordination, d'égo démesuré à l'intérieur de cette armée-là.
Le discours du président Roch Kabore, il est le même. L'unité pour faire face aux terroristes, l'opposition menace de descendre dans la rue et de demander le départ du président si rien n'est fait dans un délai d'un mois. C'est-à-dire que la division continue.
On a le droit d'exiger de l'exécutif plus d'efforts, plus de réactions, plus d'actions, plus de coordination, plus de résultats positifs, mais de là à mettre les institutions du pays dans une crise profonde pour rajouter une crise à la crise, je pense que c'est une équation insoutenable pour le peuple burkinabé.
C'était Lionel Bilgo, analyste politique. Il était joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Kati Kati, rats, voyous numériques, oisifs errants et on en passe. Nombre de sobriquets sont utilisés pour dénoncer une utilisation sinistre de l'Internet et de l'espace numérique. Les autorités indexent notamment un facteur d'oisiveté et de violation morale. Seulement, une agression plus pernicieuse s'opère en sourdine. Elle est subie par les enfants qui souffrent d'addiction à Internet. C'est une dépendance qui a de grands risques d'agir sur leur corps, leur esprit et donc leurs études. Les jeunes mamans s'en inquiètent principalement. Certaines d'entre elles, qui pourtant payent la connexion, ont fini par être partagées entre le confort dans leurs activités et l'abrutissement de leurs enfants. De Dakar, le reportage de notre correspondant, Sedina Abagay.
J'ai fait mes études via Facebook. Je vais discuter.
On apprend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Par exemple, on fait des cours en ligne et discuter avec notre camarade, avec notre ami et notre camarade. Et on peut parler, on peut faire la vidéo avec nos parents.
Je fais des actes dans YouTube et regarder les vidéos qui sont là, comme le théâtre, comme le FC Barcelone, comme les autres vidéos là.
Leur expression de la langue française n'est pas encore au point, mais ces enfants sont déjà des adeptes des réseaux sociaux, comme bien des jeunes gens de leur génération. Ils sont nés avec, mais ils s'y attachent toutefois à cause des habitudes qu'on leur suggère. L'une d'elles découle de la difficile gestion de la famille par les jeunes mamans. Ces dernières sont souvent prises entre le marteau du travail et l'enclume des obligations maternelles et domestiques. Aïda Ndiaye avoue que cette posture l'oblige à occuper son enfant au support numérique et à Internet.
L'Internet, moi je crois que c'est un mal nécessaire. Quand tu es toute seule dans ton appartement, tu dois éduquer ton enfant, tu dois t'occuper de ton enfant et faire la cuisine, faire le linge et tout. Tu vois que ça pose problème. C'est pourquoi certains parents donnent leurs enfants des dessins animés, poussent à leurs enfants à se concentrer aux dessins animés.
Ce choix des parents à distraire leurs enfants avec Internet provoque souvent une fâcheuse dépendance. Aminata Ndiaye, jeune maman, constate et regrette cette addiction qui touche ses deux neveux dont elle a la garde.
Des enfants qui, même à l'école, sont pressés de rentrer pour pouvoir activer le jeu et pouvoir interagir avec leurs potes en ligne. La maison est toujours remplie de personnes, mais les enfants sont devenus d'une manière, on va dire qu'ils sont socialement coupés. À part l'école, c'est fini. Dès qu'ils arrivent, ils préfèrent communiquer en ligne avec leurs potes sur les jeux vidéo, aller sur TikTok, faire un tour sur Facebook, regarder les derniers potins, que de parler avec les gens qui sont en face d'eux.
Les conséquences de ces habitudes peuvent être très dangereuses de l'avis du docteur Lamine Diouf. Ce pédopsychiatre indique que cette orientation des enfants vers Internet peut avoir des conséquences néfastes sur leur croissance physique et mentale.
Il faut savoir que c'est l'exposition précoce avant 3 ans et excessive, en moyenne 30 minutes voire 1 heure par jour, qui rend l'abus des écrans chez l'enfant délétère, nocif sur le plan du développement en premier psychomoteur. Au niveau également du développement cognitif, on va constater beaucoup de retard. L'enfant a besoin de bouger, d'explorer son corps, son environnement, de manipuler, de coordonner, voilà. Il a besoin vraiment d'agir avec son corps et son environnement pour s'autonomiser et pour grandir. Or, l'usage des écrans le confine à un espace et à un usage très très limité, voire stéréotypé.
L'espace numérique est un énorme terrain d'exploration et de recherche, mais il n'a pas que ses bons points. Souvent, au détriment des enfants, on note une addiction aux outils digitaux et à l'Internet qui provoquent des dysfonctionnements de leur santé physique et surtout cérébrale. Seulement, les parents sont obligés de recourir à ce support numérique pour combler leur absence, faute d'alternative. C'est peut-être le moment de penser à une politique d'assistance sociale à domicile et dans les entreprises ou de restrictions dans l'usage de l'Internet par les enfants.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Paris a restitué aux Béninois 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey pillées par les troupes coloniales françaises au 19e siècle. Ginny Kapumbu-Villa s'est entretenue avec le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, sur le retour de ces œuvres.
C'est un événement assez important pour la culture internationale, pour la culture universelle, pour le patrimoine, pour le respect des peuples, pour le respect de la culture des peuples.
Quel est le futur pour ces œuvres de retour sur leur terre natale?
Les œuvres qui viennent d'être reçues seront dans un premier temps en acclimatation. Donc l'acclimatation a démarré depuis le 10, le soir du 10. Cette acclimatation va durer 2 mois. Après cette période de 2 mois, les œuvres seront en exposition à la présidence de la République pour pouvoir symboliser évidemment la nation, pour pouvoir symboliser le fait que ces œuvres appartiennent à l'ensemble des Béninois et au-delà, puisque la présidence serait ouverte pour cette exposition. Et après 3 mois, au total dans 5 mois, ces œuvres seront à Huida, au fort portugais, où vous avez la maison coloniale qui a été entièrement rénovée, la maison du gouverneur, et à côté, vous avez le musée de l'esclavage. Donc voilà ce qui est fait. Ces œuvres vont rester là pendant 3 ans, en attendant, évidemment, leur destination, leur écrin, qui est à Abomey, dans le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Darfour.
26 œuvres, 3 ans de dialogue. Il y a-t-il une date de retour pour le reste de vos richesses?
Mais je serais présomptueux de vous dire que c'est dans 1 mois ou c'est dans 6 mois. Mais nous ne désemparons pas. Et nos partenaires français ont bien compris la dynamique dans laquelle nous étions. Tout ce qui est illégitime et qui est reconnu comme étant illégitime est susceptible d'être réclamé. Mais nous ne sommes pas là non plus pour dire que nous voulons systématiquement vider les musées français ou les musées en Occident.
C'était Jean-Michel Abimbola, le ministre béninois de la Culture.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Aux États-Unis, l'inflation affecte les Américains dans leur portefeuille. Les prix ont augmenté pour un certain nombre de produits de consommation alors que l'économie américaine tente de sortir de la pandémie du coronavirus. Est-ce une situation maîtrisable dans le court terme? Eric Manirakiza a joint à Washington le politologue spécialisé dans les affaires et la finance, Jean-François Seznec.
Pas vraiment, je ne pense pas que ce soit maîtrisable parce que c'est vraiment une inflation de base. Il y a beaucoup de demandes sur beaucoup de produits parce que les gens sortent de la pandémie et commencent à consommer énormément. Il y a tout un tas de problèmes structurels avec les transports comme les bateaux, etc. Il y a aussi des problèmes dans les pays qui approvisionnent les États-Unis, comme la Chine en particulier, qui ont du mal à produire assez pour la demande. En plus, il y a beaucoup de compagnies qui aimeraient trouver des travailleurs mais n'arrivent pas à les avoir. Ils sont obligés de faire monter les salaires. Et donc, il y a une inflation structurelle qui est très difficile de maîtriser.
L'administration Biden estime que la nécessité d'adopter le paquet de dépenses sociales de près de 2000 milliards proposé par les démocrates peut changer la tendance de la courbe.
Peut-être, mais ça pourrait aussi provoquer l'inverse. Ça pourrait aussi faire monter l'inflation encore plus parce que ça voudrait dire qu'il y aura encore plus de liquidités sur le marché et que les gens auront plus de facilité à ne pas travailler, si vous voulez, ou bien avoir des avantages. Et vont demander plus de leurs employeurs. Donc, ça pourrait faire monter les prix. C'est peut-être une nécessité de le faire, ce que veut faire l'administration Biden, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ça pourrait faire monter l'inflation encore plus, à mon avis.
Et que sera l'impact de la loi que le président Biden doit signer ce lundi, une loi concrétisant les 1 200 milliards de dollars à des dépenses d'infrastructures?
C'est une loi qui aurait dû être passée il y a presque 10 ans, hein, ça va certainement aider les États-Unis à rattraper un peu de leur retard sur l'infrastructure. C'est une très bonne chose. Ça va aussi créer beaucoup de demandes sur les emplois, sur certains emplois, surtout dans la construction en particulier, et aussi dans beaucoup d'usines qui fabriquent des pièces pour les machines et le ciment, etc. Tout ça, ça va faire monter la demande sur beaucoup de choses, comme la demande sur l'énergie, par exemple. Et on voit que l'énergie a presque doublé depuis quelques mois. Et à nouveau, ça va créer des problèmes. Donc, pour ce que je vois de mon point de vue à moi ici, c'est que les 1200 milliards de dollars qui sont alloués pour développer l'infrastructure, en fait, achèteront peut-être beaucoup moins que ce qu'on voudrait. Mais c'est une très bonne chose à faire, effectivement.
Jean-François Seznec, politologue spécialisé dans les affaires et la finance. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Thank you.